Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Une émission exceptionnelle, un moment particulier. Un jour fantastique, le 31 mars. Surtout 78. Bon, on est en 2026, mais c'était bon. Et je suis content de faire l'émission en votre compagnie aujourd'hui, parce qu'on va se régaler tout simplement sur cette plus belle journée de l'année. On est avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme. Salut à tous.
Ah ben
et Jérôme, joyeux anniversaire.
Ah oui, c'est vrai.
Joyeux anniversaire. Ça y est, 50 ans.
Hein, pas encore ? Non, mais ça va pas ou quoi ? Bah,
tu fais 50 ans, mais t'as quel âge ?
Non, je les fais pas.
48.
Alizé qui était assise.
Alizé Cornet qui était dans le super
Moscato Show. Juste là, assise à côté de moi, et elle me disait : mais non, mais t'as pas 48 ans. Mais
non, elle a dit : t'as bonne mine pour un quinquin. Ouais.
Bon, c'est ça. On est avec un Corse, lui, oh, les 48 ans, ça fait longtemps qu'il les a passés. Bon, les deux, hein, tu vas me dire aujourd'hui, c'est pas l'émission la plus rafraîchissante.
Là, t'es le petit jeune.
On est avec Pascal Olmeta. Salut Pascal, le petit jeune.
Tu sais, ouais, les amis, mais tu sais, quand tu te lèves et que t'as la trique, tout va bien.
Ouais, allez, hop.
Bon anniversaire, Jérôme.
Merci, merci Pascal.
55 ans.
Merci.
Et n'oubliez pas, 27 octobre.
27 octobre.
27 octobre à Bayonne.
On sera là à Bayonne.
Ouais, avec notre papy Jean-Michel.
Ah,
papy
bah oui,
sera là, il paiera sa place.
Et on a l'ancêtre. On a eu le petit jeune, maintenant on a l'ancêtre. C'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bon anniversaire, Jérôme. Bon anniversaire.
Merci. Merci.
Tu les fais pas.
Moi, Jean-Michel.
Et comme Jérôme est un peu mégalo, on va garder la musique tout au long de l'émission pendant deux heures.
Bon, bon, c'est sympa.
C'est sympa.
Moi, mégalo, non.
Ouais. Et ouais, c'est incroyable. Voilà. 48 ans. T'as eu des cadeaux ? T'as été gâté ?
J'ai eu beaucoup de cadeaux, mais j'espère qu'il y en aura d'autres encore ce soir.
Ok. N'hésitez pas, je vois, ça y est, des messages.
On se retrouve où vers 20h30.
Ah bah, à Meudon, chez les Roten. Là, il y a un repas de famille. N'hésitez pas, on vous donne l'adresse à 19h30.
En famille.
C'est bon ?
T'es jamais déçu de la famille.
Allez, on fait ça. Je vois des messages d'ailleurs sur le numéro WhatsApp. Merci à tous. Des messages d'anniversaire pour Jérôme. Ivo qui te dit joyeux anniversaire, Jérôme, tu me régales. Bah voilà.
De rien.
Ça va tomber pendant
de rien.
Le numéro WhatsApp 0612 424.
Vous allez voir l'émission, on va vous régaler.
Un grand Roten sans flamme, tout à fait, avec le deuxième épisode de l'opération Nouvelle Star.
Et oui. RMC, la Nouvelle Star.
On cherche les stars dans cette équipe de France. Qui prendra la lumière derrière Kylian Mbappé ? Hier, on a évoqué le cas Ousmane Dembélé. Ce soir, c'est au tour de Jules Koundé qui sera jugé sur différents critères. Les notes de Jérôme Roten autour de son charisme, sa carrière, sa popularité, son talent d'orateur ou son côté fashion. Rendez-vous 19h30 donc pour l'opération Nouvelle Star autour de Jules Koundé. Avec ce débat, est-ce qu'il est devenu indispensable en équipe de France? À 19h, on parlera du Paris Saint-Germain parce qu'on a un membre de la Dream Team qui est en colère, c'est Pascal Olmeta. Ce sera Roten se chauffe. Est-ce que pour relancer sa carrière, Lucas Chevalier doit quitter le PSG dès cet été? Supporter parisien d'ailleurs.
Avis tranché de Pascal.
Avis tranché, tout à fait.
Oui.
Supporter parisien, on vous attend au 32.
Ça fait du bien. Ça fait du bien le petit repos là.
Exactement. À 18h45, on filera en Italie pour cette soirée d'angoisse pour tous les Italiens. Est-ce que l'Italie va manquer une troisième Coupe du Monde consécutive? Clément Brossard est parti à Milan pour vivre cette soirée au cœur du peuple italien. Ce soir, c'est Bosnie-Italie à suivre sur RMC dès 20h45. C'est la finale du barrage pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et puis ce soir, grand dossier Olympique de Marseille dans Roten sans flamme avec à 18h30 le procès de Mehdi Benatia et de son bilan insuffisant en tant que directeur sportif de l'OM. Son départ en fin de saison a été acté par Franck McCourt la semaine dernière dans le JDD. On en débat donc avec vous également au 32-16. Et justement, on y va sur cette grande page marseillaise tout de suite. Avenir incertain pour l'Olympique de Marseille.
Le jour se lève sur les quartiers nord de Marseille.
Dans pas longtemps, vous verrez qu'il y aurait deux personnes à notre place. Il faudra encore leur laisser du temps de travailler parce qu'à Marseille, t'as jamais le temps.
Petites et grosses magouilles.
Corruption dans les championnats de mer.
Marseille suffoque.
J'ai noté ces derniers temps un petit peu de nervosité. Il existe des produits illicites qui permettent de passer de bons moments.
Marseille serait donc un chaudron en ébullition.
Qu'est-ce que je me gagne ?
On va jouer jusqu'au bout, on va essayer d'aller chercher quelque chose. Et puis voilà, faut repartir.
Et ces nuits, particulièrement dangereuses.
Ça, c'est de la après corruption.
À quoi ressemble-t-elle au quotidien?
C'est pas d'un coup de baguette magique que tu vas tout changer.
Aujourd'hui, la cité phocéenne est la ville la plus chaude de France.
Viens là.
Longoria finit marqué par sa longue suspension avec de graves accusations contre l'arbitrage, notamment à Auxerre la saison dernière.
Une telle agressivité, c'est quelque chose d'inouï.
Benacha, il a vraiment élevé le club, il nous a fait des bonnes gestions.
Plongé dans les entrailles
dans ces championnats de merde
de la troisième ville de France.
Allons-y sur le grand dossier olympique de Marseille, la prise de parole de Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM depuis 2016 dans le JDD, c'était dimanche. Les annonces principales, appel du pied pour de nouveaux investisseurs à Marseille. Frank McCourt a déclaré, je pense que c'est le moment d'entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Deuxième annonce, on l'a dit donc, la confirmation du départ de Mehdi Benatia, directeur du football, en fin de saison. Et donc cette troisième annonce, la volonté de nommer un nouveau président à l'OM avant la fin de saison. On rappelle que le départ de Longoria a été officialisé il y a quelques jours. Le processus est enclenché. Le poste recherché, c'est McCourt qui le dit, ma préférence va à quelqu'un qui connaît bien la France et Marseille, un manager d'envergure, expérimenté. On vous rappelle que pour l'instant, c'est Alban Juster, l'ancien DG financier, qui assure l'intérim. Sportivement, Marseille est troisième de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Lyon et Lille à 7 journées de la fin. Et on parlait justement d'un trio qui avait explosé à Marseille entre Benatia, Longoria et De Zerbi. Sachez que ça vient d'être officialisé. De Zerbi est le nouvel entraîneur de Tottenham. Voilà, ce sera le sujet notamment d'un podcast additionnel sur la chaîne Rotten sans flamme. C'est la une de Rotten sans flamme ce soir. Jérôme, Jean-Michel, Pascal, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de l'OM, 32-16. Jérôme, est-ce que tu es inquiet, toi?
Bah, en fait, il y a deux choses. Je suis pas inquiet parce que tu t'appelles l'Olympique de Marseille et ça va faire plaisir à Pascal, mais c'est ce que je pense en étant totalement objectif et vous connaissez tout l'amour que j'ai pour l'Olympique de Marseille. Pascal et Jean-Michel, pour être totalement objectif, Marseille est une place forte dans le football français, dans tous les cas. C'est la vitrine de nos footballs français avec le Paris Saint-Germain, c'est la réalité, c'est comme ça. Et donc là où je suis pas inquiet, c'est que je me dis que l'OM se remettra toujours des mauvaises saisons ou des mauvais choix et que tu arriveras toujours à rebondir à un moment ou à un autre. Alors après, il faudra peut-être prendre du temps après ce qui s'est passé là sur cette année qui va laisser des traces déjà en termes d'hommes, et c'est là que je suis un peu inquiet, si tu veux, sur la saison prochaine et au moins sur le début de saison prochaine. C'est que on est début avril quasiment, que tu sais que t'as plus de président. Ouais. Tu sais que t'as plus de directeur sportif.
Ouais.
Tu viens de récupérer un entraîneur qui a été mis là grâce à ton ancien directeur sportif. Où je sais même pas pourquoi Mehdi Benatia est là, si c'est déjà acté qu'il parte au mois de juin.
Tu n'es pas sûr de garder en juin prochain.
Il part pas.
On n'est pas sûr qu'il reste à la SU de cette saison.
J'imagine quand même que McCourt, quand il lui fait signer le contrat avec Mehdi Benatia, ils sont assez clairs. C'est que t'es aussi lié à l'avenir de Mehdi, étant donné que c'est acté.
Et au
résultat sportif. Alors peut-être que lui, Habib, il se dit une chose. Oui, mais tu me donnes 4 mois, je peux pas refuser, parce que c'est vrai que c'est difficilement refusable l'Olympique de Marseille, même pour un jeune entraîneur comme Habib Bey, qui a, pour moi, et je le répète, c'est tombé du ciel, la place d'entraîner l'Olympique. Mais il y est allé avec ça, avec cet état d'esprit-là, t'as raison, Pascal, de le dire, et tout en se disant, écoute, je vais y arriver. Et je vais montrer à tout le monde que en 4 mois, je vais remettre de l'ordre dans le sportif. Je vais avoir des résultats, je vais atteindre des objectifs, tous les objectifs qu'on m'a mis en place. Manque de bol, c'est que tous les objectifs, je peux pas les atteindre. C'est-à-dire que la Coupe de France, il s'est fait éliminer, et en championnat, tu peux pas faire mieux que l'année dernière ou aussi bien que l'année dernière, parce que Lens a déjà un bon matelas d'avance sur la fin de saison.
10 points.
Donc, écoute, après, une fois que t'as dit ça, tu te dis que oui, mon inquiétude, elle est là. Elle est là pour tous les amoureux de l'Olympique de Marseille, parce que le temps de prendre un président, et il faut vite que ça se fasse. Alors s'il a déjà le nom, qu'il le dise vite et qu'il l'officialise assez vite.
En tout cas, il y a des pistes et on en parlera dans un instant.
Comme ça, non, mais bon, pour l'instant, toutes les pistes qui sont sorties, je suis désolé, tout ce qu'a dit McCourt, il n'y a aucune piste qui correspond. Il y a un mec qui connaît le football, qui connaît la France, qui connaît l'environnement à Marseille et qui a beaucoup d'expérience. Je sais pas, si vous avez sorti un nom là dernièrement, il y a un nom dans la presse qui est sorti, moi je le connais pas.
C'est c'est un ancien collaborateur d'ici, d'ailleurs ami d'RMC, Mohamed Bouafsi, donc journaliste aujourd'hui à France Télévisions. Et
non, mais il n'y a pas que ce nom-là qui est sorti.
Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres qui sont sortis. Mmh. Mais dans tous les noms, lui et d'autres, il n'y en a aucun qui correspond à au portrait robot qu'a mis en place Franck McCourt. Alors si en plus, Franck McCourt, il est là, il a trop parlé, et que la personne qui va venir, elle coche pas toutes les cases à ce qu'il a dit, bah là, déjà, il aura des comptes à rendre avec les amoureux de l'OM. Mais ça, une fois que t'as dit ça, le grand bouleversement pour l'année prochaine, ça va être le sportif. Pourquoi l'OM aujourd'hui a pris claque sur claque et échec sur échec, que l'entraîneur l'a dégagé, que le président l'a dégagé et que le directeur sportif l'a dégagé? Ça veut dire qu'il faut tout reconstruire sportivement. Et que
là, Jérôme, c'est de constater à un mois et demi, deux mois de la fin, avril, mai, à un mois et demi de la fin du championnat, dans quel état se trouve l'Olympique de Marseille aujourd'hui, en ayant mis, je ne sais plus, c'est 600 ou 800 millions d'euros depuis qu'il est arrivé.
Eh oui.
Dans quel état se trouve aujourd'hui l'Olympique de Marseille?
Catastrophique.
Entraîneur viré, président viré, directeur sportif sur le départ, effectif...
Tu peux rajouter les joueurs aussi. Hein.
L'effectif, je parle de l'effectif.
Ouais.
Effectif en recherche de, on va dire, de solidarité, il y en a certains... qui
et de stabilité.
De l'avenir devant eux chaque fois qu'ils font demi-tour. Et quand tu as McCourt qui dit, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense que des Dreyfus et des McCourt, ça ne se trouve pas sous la semelle d'un cheval, sous le sabot d'un cheval, il y en aura de moins en moins. Et quand il dit, j'ouvre le capital à de nouveaux investisseurs.
Ouais.
Moi, je n'entends pas. Je vais continuer à envoyer la monnaie sans
problème. Ah, on est d'accord. Moi, mais c'est quand même lui.
J'entends. Non. Je vais vendre. Je m'échappe et
Mais Jean-Michel, comment tu comprends alors toute sa réflexion sur le prochain président de l'Olympique de Marseille quand il te fait un portrait robot?
Il fait comme s'il allait continuer pour assurer les supporters. Et je suis pas.
Mais si tu ramènes quelqu'un de novice à ce poste-là.
Aujourd'hui, honnêtement, Jérôme, vraiment, j'ai l'impression que la personne qui s'occupe de l'intérim et qui est une personne visiblement calme, discrète, qui ne fait pas de bruit et qui reste dans son coin. Honnêtement, Jérôme, je ne suis pas sûr que la priorité des priorités aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille, ce soit d'avoir un président. Je pense que la priorité des priorités, c'est de prendre suffisamment de points pour te retrouver troisième.
Oui, mais d'accord, mais Jean-Michel,
important parce que qui c'est qui dirige là, c'est...
Non, mais Pascal et Jean-Michel, Jean-Michel, j'entends ce que tu dis, que le plus important, c'est pas forcément de prendre un président. Mais excuse-moi, que à travers, moi aussi, pour moi, le plus important, c'est pas de prendre le président, c'est de prendre un directeur sportif digne de ce nom, qui va te mettre un entraîneur qui a les épaules pour entraîner l'Olympique de Marseille.
Mais c'est pour l'année prochaine.
Ah oui, il faut bosser dès maintenant, Jean-Michel.
Si tu bosses pas maintenant.
Mais c'est même trop tard, pour l'année prochaine, c'est même trop tard.
Jean-Michel,
tout de suite,
déjà, parce qu'on connaît assez le football et assez ces clubs à forte pression, c'est déjà, tu prends du retard. Mais déjà, la base, c'est ça. Et qui décide du sportif de mettre un directeur sportif digne de ce nom avec un entraîneur qui va avec le projet? Qui décide de ça? C'est pas McCourt, il connaît pas assez le football pour comprendre.
Je te dis, Jérôme, le constat est terrible. Dans quel état est l'Olympique de Marseille aujourd'hui après 600 ou 800 millions d'investissements?
Ah ben oui.
Et avec une saison qui se prépare avec ou sans la Coupe d'Europe et avec une préparation qui sera, parce que je vois tout de suite, ah oui, un nouveau président arrive, oui, mais il lui faut 3-4 mois pour trouver ses marques. 3-4 mois, t'es déjà dans la saison suivante.
Déjà.
Le directeur sportif, ah oui, il lui faut 2-3 mois pour, t'es déjà dans la saison suivante. Bon, aujourd'hui je suis beaucoup moins optimiste que vous.
Ouais, c'est vrai.
Après la direction sportive,
Pascal,
il y a un personnage qui est arrivé il y a peu de temps. C'est
il sera optimiste. Lui.
Federico Balzaretti, hein, qui a été recruté en tant qu'adjoint de Medi Bellatia. Et lui, il n'a pas annoncé son départ pour l'instant. Donc lui est encore là pour les prochains mois.
Pascal, donc tu penses. Est-ce que toi, déjà, t'es inquiet pour l'Olympique de Marseille ?
Non, inquiet, ça fait... On prend les années, ça passe. OK, que nous, les anciens, on a pu écrire des histoires et c'est fabuleux, mais Marseille, c'est tellement particulier que quand tu vois qu'il y en a qui se saignent et que ça continuera, qu'il y aura toujours 65 000 personnes à chaque match.
Non, je te dis que non.
Tu joues le trio de tête
oui.
Pour avoir la plus belle des coupes.
Faudrait mieux déjà se qualifier.
Pourquoi le président il peut chercher encore des fonds d'investissement qui viennent nous casser les burnes, mais pourquoi ils le font pas
en sous-marin
et que ça rentre dans les caisses que tu es. Et pourquoi pas comme
parce qu'il y en aura de moins en moins, Pascal.
Ben oui. Comme Harry, le Paris FC, de prendre un entrepreneur, de prendre des hommes français qui veulent mettre de l'argent.
Si ça n'arrive pas, c'est qu'il n'y en a pas.
Est-ce que vous vous rendez compte dans quel état est notre football professionnel?
C'est sûr que c'est durablement en ce moment.
Tu veux vendre du plastique pour du métal précieux, c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Mais c'est tellement précieux, l'OM, Jean-Michel.
Mais Pascal, c'est là que tu te trompes.
Il y en a qui pissent bleu, les gars. Vous ne pouvez pas comprendre.
Ils le feront chez eux, Pascal.
Et ils continueront parce que je sais qu'ils aiment l'OM.
Non, c'est pas le même bleu.
On va se sauver, Bastien, on va se sauver.
Non, mais Pascal, là.
En plus, tu vas être obligé d'aller jouer à huis clos, le match à l'extérieur.
Pascal.
Ils sont meilleurs à l'extérieur, Pascal.
Pascal, ce que je veux dire, c'est que tu. Je suis d'accord sur l'attachement et sur l'amour qu'il peut y avoir l'Olympique de Marseille
bien
et l'importance. Ça, il y a pas de problème. La ferveur à Marseille, écoute, elle est comme ça, elle existera toujours. Par contre, à côté de ça, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que quand tu me dis oui, mais pourquoi au Paris FC, la famille Arnaud, ils ont pas préféré investir à Marseille? Pourquoi la famille Pinault, ils investissent à Rennes depuis autant d'années? Pourquoi
peut-être tu leur as pas demandé, peut-être que.
Mais si, mais
il y en a d'autres en Marseille.
Je pense qu'il
y en a un qui est sur le maillot, et pourquoi pas?
CMA-CGM qui est propriétaire du groupe RMC BFM TV.
Oui, d'accord, mais bon,
Pascal, je connais pas la politique de
Jean-Michel, on peut parler football parce qu'on va faire passer le message plus clairement parce qu'on comprend le ballon, on sait. Quand on parle gardien, je peux en parler. Mais pourquoi pas, il y a des hommes qui puissent parler, pour une bonne fois pour toutes, de l'OM. Ceux qui connaissent l'OM et ceux qui connaissent le football qui est approprié à l'OM. D'avoir les personnes... Moi, un jour, j'ai eu la chance d'avoir comme coach Franz Beckenbauer. C'est pas des moindres. Le monsieur, je dis le monsieur, et aujourd'hui, il est plus de ce monde, malheureusement. Mais c'était tellement clair. Il parlait football, on bavait ses paroles. Voilà, le football, c'était simple à jouer. C'est
différent, parce qu'aujourd'hui...
Mais c'est pas qu'elles sont pareilles.
Pascal, aujourd'hui...
Tu prends un Dimeco. Écoute, tu le mets président.
Oui, d'accord.
Il n'a déjà eu des responsabilités, il n'a même pas envie d'y aller.
Et puis il n'a même pas envie d'y aller.
Je vous dis, tu prends un canto, tiens, Eric.
Mais je pense qu'il a pas envie d'y aller non plus.
Vas-y, Jean-Michel.
Parce que tu parlais de la famille Pinault.
On parle de
celui qui est actuellement le notre patron à RMC et à BFM, je crois. Mais tu penses que ce monsieur, s'il va à l'OM, c'est pour rester sur le strapontin de ma courte?
Ben oui.
Ce que tu veux dire, Jean-Michel, c'est que s'il rachète, c'est qu'il rachète complètement.
Ben bien sûr. Ouais. Mais heureusement.
Il va pas être sur le strapontin. Pourquoi pas, Jean-Michel? Je te dis, pourquoi pas.
S'il y a, à mon avis, une opportunité, comment dirais-je, un truc de tir là, une je sais plus comment ça s'appelle, une lucarne pour c'est lui qui c'est de lui dont on parle, mais la personne en question, elle va pas se contenter.
Écoute, d'être sur après tu peux, Jean-Michel, tu peux ouvrir le capital avec à des nouveaux investisseurs et qu'ils acceptent de mettre de l'argent sans
Arlo, ils sont sur le strapontin.
Non, mais je te parle pas. Mais regarde le PSG qui a ouvert son capital aux Américains là dernièrement. Alors après c'est différent.
Il y a d'autres dimensions quand même.
C'est différent, mais il y a quand même eu des investissements assez importants. Oui, non, mais c'est sûr.
On parle de l'OM et il va nous caguer.
Non, il te donne un exemple.
Je te donne un exemple en disant que c'est.
On parle de l'OM. On les a, les hommes qui peuvent acheter.
Mais tu les as pas. C'est là que tu te trompes. Alors après, à côté de ça, il y a aussi le bon vouloir de McCourt parce que c'est son club et ça lui appartient. Et comme l'a dit Jean-Michel, il a déjà beaucoup investi. Malheureusement, l'argent, il est parti en fumée parce que franchement, ça vaut pas 800 millions comme tout l'argent qu'il a mis.
Et aujourd'hui, ça vaut quoi l'OM ? J'aimerais savoir combien est valorisé l'OM.
Non, mais il l'a dit, Franck McCourt. Hein. Ça vaut beaucoup plus cher qu'à l'époque où il l'a acheté.
C'est sûr, il va pas te dire le contraire.
Il regardera le train passer.
Et c'est pour ça que notre inquiétude, elle est aussi là. C'est que forcément, quand tu vois l'état de notre football français, on peut pas dire que t'es propriétaire du club aujourd'hui, t'es content de voir les droits à télé et à savoir combien t'es vendu, alors que ça représente plus de 50% normalement de la masse salariale, les droits télé. Donc quand tu vois la catastrophe, c'est sûr que t'as un investisseur qui veut mettre de l'argent, qui veut mettre 800, 900 millions, je sais pas, 500 millions, il va réfléchir à deux fois. Et en plus, après, il y a juste la base que ce que t'as, le socle, comment il est aujourd'hui, franchement, sportivement, mais c'est pas le néant parce que t'as quand même la valeur de certains joueurs. Non, mais ce que je veux dire, tu peux te qualifier, t'as pas d'entraîneur digne de ce nom à Marseille, t'as pas de directeur sportif digne de ce nom à Marseille, t'as plus de président digne de ce nom à Marseille.
Je suis pas sûr que l'actif joueur soit énorme quand même.
Non, mais il est pas actif, il est pas énorme.
Sur Greenwood, c'est pas Aubameyang que tu vas.
Je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'il y a un bourbier et que si tu mets du temps à mettre tout à mettre en place ces hommes-là, tu vas perdre et l'inquiétude pour l'année prochaine. Moi, je suis pas définitif à dire c'est l'OM en danger de mort, pas du tout, parce qu'à Marseille, comme a dit Pascal, Marseille, ils se remettront toujours. Mais par contre, tu peux vivre en effet quelques mois très très compliqués.
Avant d'accueillir Loïc, je voudrais juste vous sonder sur le nom qui est sorti hier sur RMC dans l'after donné par Daniel Riolo, donc Mohamed Bouafsi, journaliste passé ici, qui a démarré sa carrière professionnelle ici, qui a ensuite rejoint France Télé, qui est directeur général d'une branche de Troisième Œil Production. À votre avis, est-ce que le candidat est crédible ? Est-ce que vous dites que ça pourrait être une bonne idée ? Jean-Michel, quel est ton avis ? Quelqu'un que tu connais bien, Mohamed, on l'a bien connu ici.
Oui, tout est possible. Bon, si on parle des cases que veut cocher M. McCourt, il en manque une, effectivement. Après, le reste, il faut bien commencer une fois, un jour. Mais moi, je pense que le rôle d'entraîneur, on le sait. Et peut-être que Pascal est beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Mais à l'OM, il y a des rôles qui sont plus difficiles les uns que les autres. C'est difficile d'être joueur. Je crois que c'est encore plus difficile d'être entraîneur. Je crois que c'est encore plus difficile d'être directeur sportif. Parce que tout le monde, les 65 000 spectateurs, sont directeurs sportifs. Et c'est encore beaucoup plus difficile qu'être président. Je prends un exemple, messieurs. Peut-être que je me trompe, mais dans les derniers présidents, il y a eu des joueurs, des présidents compétents. Je pense notamment au pauvre Pape Diouf, qui était quelqu'un d'exceptionnel. D'accord ? Il y a même un président qui a gagné. C'était en l'an 2000.
Jean-Claude Dacier.
Et on peut pas dire qu'il est véritablement la côte à Marseille.
Non, c'est vrai.
Et si vous voulez, même un président qui gagne, il a pas la côte. Donc vous vous rendez compte, un président qui ne gagne pas, dans quel état il est. Donc c'est des rôles tellement compliqués, parfois qu'on ne peut pas les refuser. Si tu en parlais tout à l'heure concernant Abibay, Jérôme, et ça lui est tombé du ciel, il l'a accepté en sachant que la tâche était compliquée. Mais tu sais que tu as 99 chances sur 100 d'échouer. Et si tu réussis, les gens t'en tiennent pas quand il n'y a pas de guerre.
Mais moi, pour réagir.
C'est des rôles compliqués à Marseille. Non,
c'est très compliqué.
Mais déjà, pour réagir à l'info là, que tu donnes, du moins, qu'il a été contacté, ils ont échangé.
En tout cas, qu'il est dans les discussions, c'est ce qu'on.
Moi, en fait, il y a deux choses. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais à Marseille, je pense qu'il te faut un président charismatique. Mais là où, en effet, ça me dérangerait pas de voir un mec comme Mohamed Bouafsi ou un autre, si tu veux, qui découvre l'envers du décor du foot. On peut pas dire que ces mecs-là connaissent le football, connaissent le vestiaire, connaissent les rouages.
Il a un réseau dans le foot, mais il a pas connu le vestiaire.
Les réseaux, ce que je veux dire, ça me fait rire. Ça, et peu importe, c'est pas ce réseau-là qui va te permettre d'être entraîneur, président de l'Olympique de Marseille. Par contre, tu peux être président, parce que pour moi, le président, il a pas à se mêler, surtout si c'est un président de la sorte, qui découvre un peu la sphère du foot. Et la preuve, Jean-Michel, tu viens de dire Dacier, il y en a d'autres, il y a d'autres exemples qui des mecs qui étaient pas qui connaissaient pas la rouage,
il y a eu quelques-uns,
qui connaissaient pas le rouage de du football et qui ont découvert. Mais là, il faut juste que cette personne-là qui est nommée et qui est dans cette posture-là soit très bon dans de qui il s'entoure et qui à qui donne les rênes du directeur sportif. Parce que là, ce que disait Jean-Michel, c'est que si t'as un président où l'envers du décor du foot, le vestiaire te dépasse parce que c'est pas ta vie et tu n'as jamais été dedans, il faut que le directeur sportif, il ait la vue surtout et que le président, il ne décide surtout pas du sportif. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça à Marseille? Bah, dans ces cas-là, il y a plein de pistes crédibles qui peuvent. Il y a Mohamed Bouafsi, il y en a d'autres aussi qui peuvent intervenir. Non,
quand il cite Eric, évidemment que tu ne peux pas écarter et tu peux considérer que c'est une bonne idée aussi. Et quand je parle d'Eric Dimeco.
Oui, bien sûr. Lui, c'est encore différent. Lui, il a l'étiquette.
Toi qui connais bien l'OM, Pascal.
Non, mais pour bien le connaître, pour bien sentir ce que c'est un vestiaire, tu peux apprendre, mais tu n'as pas le temps d'apprendre. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui ne connaisse pas le vestiaire, qui ne connaisse pas la vie marseillaise. Tu n'arrives pas de Paris juste le week-end pour regarder les matchs. Et... Non. Il faut quelqu'un qui est... Je sais pas, il y en a tellement. Je vais pas te parler parce qu'ils ne veulent pas les anciens footballeurs. C'est ça qui est le malheur, c'est qu'on ne veut pas d'anciens footballeurs. Pourquoi je ne comprendrai jamais. Mais c'est comme mais tu es le fils d'eux. Non, mais tu es le. Mais non. Le football, il est simple. Il faut les connaisseurs. Il faut ceux qui connaissent la vie de tous les jours, qui s'imprègnent du directeur sportif, qui prennent la décision quand il faut, les joueurs qu'il faut, mais qui connaissent vraiment les joueurs et le football. C'est tout. Et tu en as. On parlait d'Eric Dimeco. C'est des gars comme ça qui quand même le club a coulé, ils étaient là.
Bon, on va le sonder, Eric. On va lui aurait
un non, mais il a déjà. On lui a rabâché Eric plein de choses là-dessus.
Et juste, on a une pensée pour Pape
après,
Diouf.
Je suis candidat à la présidence.
Ah, bah voilà, ça y est, Pascal est candidat. Pensée pour Pape Diouf qui nous a quittés il y a exactement 6 ans, jour pour jour. Donc, une grande pensée pour lui et sa famille. Pape Diouf, grand président de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Dans un instant, ouvrons le procès de Mehdi Benatia, directeur sportif de l'OM et de son bilan insuffisant. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme, on continue l'émission. On va parler de Mehdi Benatia dans un instant avec Jean-Michel Larqué, avec Pascal Olmeta et avec Benoît Boutron à 18h45.
On file en Italie.
Ah bah oui. Et oui, on file en Italie.
Et oui, on retrouve avec Clément Brossard qui est à Milan.
Tremble. Ah ouais. Peur sur l'Italie, ça tremble en Bosnie.
Ah bah chez les Larqué, ça tremble. Alors là, Jean-Michel est en panique.
Et oui, ça va.
Ah, ça va pour l'instant.
Moi personnellement, ça va.
Ah bah on pense à ton épouse qui doit être tendue pour espérer que l'Italie ne loupe pas une troisième Coupe du Monde d'affilée.
Un but de Dzeko et hop.
Aïe, ça ferait mal.
Il y a du Dolci, il y a du Pistolozzi.
Je remercie surtout les centaines d'auditeurs.
Je suis servi.
Aïe. Les centaines d'auditeurs qui souhaitent un joyeux anniversaire à Jérôme Rotten, c'est aujourd'hui. Donc.
Arrête de mentir.
Non, je pense à Yacine qui nous a laissé un message. Yacine sur le numéro WhatsApp.
droite, qu'est-ce qu'il a mis
Jérôme Roten, qui est né le même jour que ma femme. En tant que Marseillais, je pense désormais divorcer. On embrasse Yacine.
C'est
une plaisanterie.
Bravo Yacine.
Mais c'est assez drôle, quoi. Sinon, t'as plein de messages d'anniversaire. Allez, on y va pour le procès.
Je croyais qu'il y a divorcé parce que vous parlez de moi.
Roten sans flamme.
Dites-lui bien qu'il y avait pénalty sur Ro. Dites-lui bien. Il m'a dit, vous m'avez menacé avec le doigt. Là, je vous demande, donc là c'est un service, s'il vous plaît, trouvez-moi les images. Je sais que j'ai pas le droit de parler, vous inquiétez pas, je le sais, je l'ai très bien compris. J'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit de rien.
Le procès de Roten sans flamme.
L'avenir scellé de Benatia à l'OM, départ acté en fin de saison, c'est Franck McCourt qui l'a dit. Il l'a convaincu d'aller jusqu'à la fin justement de cette saison pour assurer une transition. Il était arrivé à l'OM en tant que conseiller sportif en novembre 2023, devenu directeur sportif en janvier 2025. C'était le garant du projet sur 3 ans de ce fameux trio Longoria, Benatia, De Zerbi qui a complètement volé en éclats. À son crédit, on peut quand même reconnaître cette capacité à recruter des joueurs de grands talents. Greenwood, Rabiot, Pavard avec un CV magnifique. Quelques ventes réalisées, il y a de l'argent qui est rentré à Marseille. Certains reproches qu'on peut lui faire en revanche, c'est le nombre de mouvements. 34 arrivées, 36 départs depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, et certaines recrues qui ont été exfiltrées 6 mois après leur arrivée, et puis aussi sa communication dont on va parler dans ce procès. Parce qu'on ouvre le procès ce soir de Mehdi Benatia et de son bilan insuffisant à Marseille avec un procureur, Jérôme Roten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Deux avocats pour Mehdi Benatia, Maître Larquet, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et Maître Olmeta, bonsoir.
Et voilà, bon à tutti.
Et c'est Loïc, supporter de l'OM, qui rendra son verdict. Loïc qui est au 32-16. Salut Loïc.
Salut à tous, bon anniversaire Jérôme.
Ah, merci, bienvenue, merci Loïc. Loïc.
Ouais, c'est bon, allez, gentil. Comment ça, c'est un supporter de l'Olympique de Marseille, il va être objectif.
Vas-y Jérôme, alors comment tu juges le bilan de Mehdi Benatia?
Contrairement à toi. Bon, alors, écoute, moi, quand tu fais le bilan, ça fait 2 ans et demi, donc ça fera 2 ans et demi que Mehdi Benatia est arrivé directeur sportif de l'Olympique de Marseille. On lui a demandé, à l'époque, il arrive parce que c'est le foutoir. On ne sait pas comment va être mangé l'Olympique de Marseille, quelle continuité, quelle stabilité. C'était bien les mots, l'instabilité de Pablo Longoria, le ceci, les joueurs qui partent, qui il reste 3 mois, 6 mois et tout ça. Et Mehdi est arrivé en nous expliquant sa façon de voir les choses, sa politique sportive, la rigueur qu'il voulait mettre dans ce club à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est un gros travail qu'il a eu à faire. Et ça, il l'a fait. Et c'est pour ça que je juge son bilan insuffisant, mais pas positif. Et ça pencherait plus sur le négatif, sur tout ce que je vais énumérer maintenant.
Okay.
Une fois que t'as mis cette rigueur-là, il a souvent été comme ça, à nous dire voilà, moi il faut arriver à telle heure, il faut respecter le maillot, il faut dire ça, il faut dire ça. C'est vrai que les premiers mois, c'était rafraîchissant, et on s'est dit enfin un mec qui vient du monde du foot, qui est très attaché à l'Olympique de Marseille, qui correspond en termes de personnalité, de caractère, tellement à ce que un directeur sportif doit être à l'Olympique de Marseille, que les résultats, ses premiers choix ont été bons. C'est-à-dire que tu prends De Zerbi la première année, et tu nous expliques que t'as un projet à moyen ou à long terme, c'est-à-dire plus de 3 ans. Avec un coach comme ça, où tu vas lui laisser le temps, tu vas essayer d'installer des joueurs niveau Ligue des Champions pour permettre à l'Olympique de Marseille de se rapprocher du Paris Saint-Germain. Je dis pas de dépasser le PSG, mais de se rapprocher avec les moyens du bord, qui sont des bons moyens, parce que c'est le deuxième budget de Ligue 1. Et que la première année, très vite, du moins quand tu fais la première année complète, pas quand tu arrives en courte saison, tous ces choix sont assez judicieux, parce que les résultats sur la saison, même s'il y a eu ça a été un peu les montagnes russes sur la deuxième partie de saison, on se souvient de l'année dernière, il arrache quand même une place en Ligue des Champions. Et là tu te dis le club il avance. C'est vrai que la relation avec Pablo Longoria et avec De Zerbi, très souvent ils se sont protégés tous les trois, on est un vrai trio, on pense la même chose. C'est vrai, ils se protégeaient, lui disait que Pablo était un super président, que le coach était magnifique, lui Pablo disait que le directeur sportif était magnifique, il n'y a pas de souci. Et l'année dernière ils ont quand même fait des dingueries en termes d'image avec les arbitres. Moi j'ai été pour eux, parce que énorme pression, tu peux fauter une fois, une deuxième fois. Ils ont fauté chacun après l'autre, ils ont pris des grosses suspensions, pas de problème. Et arrive, et je finis là-dessus, arrive, et c'est là que le bilan, il devient pas bon, c'est qu'arrive le mercato d'été, après avoir arraché donc une qualif en Ligue des Champions, et tu nous expliques que un an avant, c'était la stabilité qui allait faire grandir l'Olympique de Marseille, et tu fais 14 départs et 13 arrivées. Surtout sur les derniers jours du mercato. Donc tu te dis, là la stabilité, on n'y pense plus, et tu penses là, toi, maîtriser le sujet en disant, oui mais on a renforcé, on a pris que des grands joueurs. Bah, les résultats ont fait que tu as pris une énorme claque en Ligue des Champions.
C'est fini, Jérôme.
Une énorme claque et plus d'un c'est match fini, où tu as pris. Tu as perdu en Coupe de France.
C'est fini, Jérôme.
Un objectif important. Tu as perdu ton entraîneur, tu as perdu ton président. Et toi, tu nous annonces au mois de janvier, après avoir dit à maintes et maintes fois que tu allais partir, que c'était plus ton poste et tout ça. En fait, tu as baissé les armes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, là, aujourd'hui, fini, pour faire fini, le bilan au mois de juin. Jérôme. Comment tu quand tu démarres quand tu quand arrêtez-vous quand tu pars de cet effectif là tu te dis est-ce que le départ de Benatia va amener de la continuité à ce groupe? Bah non, en fait, parce que tu laisses un grand vide dans le vestiaire où il faut tout reconstruire, et ce qui donne donc en effet, avec toutes les erreurs de recrutement, parce qu'il y en a eu beaucoup, à prendre des joueurs acheter assez cher et 6 mois après t'en séparer.
Allez,
une fois, deux fois, trois fois, quand c'est 5, 6 fois, 7 fois, 10 fois, bah, ça rend ton bilan très insuffisant.
À la défense, Maître Larquet.
Ouais, ça sera coup, parce que il avait besoin de beaucoup parler.
Bah, il était seul face à vous.
Oui, il a besoin de beaucoup parler pour se justifier.
Bah non, mais dis-moi, c'est bien alors.
J'ai évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi, j'ai pas écouté.
Bah, c'était bien, il a dit.
Oui, enfin, si tu veux faire de l'autosatisfaction, il n'y a pas de problème.
Non, j'ai dit, dis-moi que c'est bien que Benatia, son passage, vas-y, dis-moi sur quoi c'est très bien.
Je dis simplement, et je persiste à dire que c'est un rôle extrêmement compliqué.
Oui, bah d'accord.
Il a été le seul à peu près du côté de McCourt. Il n'a pas été le seul à peu près, il a été le seul véritablement à être, comment dirais-je, supporté par McCourt, qui a insisté pour qu'il reste parce qu'il voulait partir, contrairement à ce que dit Maître Rotten. Finalement, oui, ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Dans ces 2 ans et demi, il aura peut-être réussi à qualifier 2 années de suite l'Olympique de Marseille. En tout cas, ça a été le cas l'année dernière. Et concernant les reproches qu'on peut lui faire, tu lui reproches d'avoir fait beaucoup de mouvements. Je vous rassure, Maître Rotten, avant qu'il n'arrive, il y en avait tout autant, il y en avait même peut-être davantage. Donc,
oui, mais...
donc je pense pas que ce soit véritablement la faute de Benatia.
Ah bah donc, quand tu dis des choses, en fait, les paroles, c'est pas grave.
Il a eu un rôle compliqué, il est resté 2 ans et demi. Je lui ferai un petit reproche, c'est qu'il était, il y avait trop de monde autour de lui. Trop de monde. J'ai regardé les amis proches ou moins proches de Benatia qui travaillaient. Ça, je lui reproche ça.
Okay.
Mais pour le reste, il a fait. On a senti quand même qu'il essayait de tenir la baraque.
Passe quoi, vas-y.
Bon, écoutez, moi, ce qui me fait rire, Rotten.
Oui.
Quand tu fais passer des messages à Mehdi et pour le féliciter, pour tout ce qui va avec, et aujourd'hui, tu es en train de me le casser en deux.
Mmh. Non, je sais pas. Est-ce que je l'ai cassé en deux?
Mais qu'est-ce que je crois? T'entends pas.
Est-ce que le bilan était insuffisant?
Je l'ai pas cassé en deux.
Mais comment ça peut être insuffisant?
Je sais pas, dis-moi que c'est génial.
Mais les gars, déjà,
c'est vrai que l'année est incroyable.
Déjà, avec tout le bordel qu'il y a, ils sont, et on est toujours troisième.
Ah oui, d'accord. Ah, c'est suffisant, en fait.
Avant lui, il y avait déjà, mais attends, mais il a vendu des jeunes pour 40 millions d'euros. C'est la première fois à l'OM de l'histoire que tu qualifies des jeunes en Youth League. Que on te donne les rênes, sachant que Marseille, ben il faut savoir les tenir, c'est pas évident.
Il a vendu. Explique-moi, mais quand tu vends un joueur, c'est lui qui a fait la démarche ou c'est les agents qui ont trouvé les clubs pour les payer cher? Explique-moi en fait.
Non mais explique-moi. Tu vends un joueur 40 millions d'euros.
Là tu chipotes.
C'est lui en fait.
Bah, c'est attends, avec tout le monde.
Oui, il a donné ses verres quand même. Oui.
D'accord.
Non, mais si aujourd'hui il est toujours là, Jérôme. Mais si aujourd'hui il est toujours là, autrement il aurait été viré comme on vire tout le monde. C'est parce que c'est son président Marcourte qui lui a demandé de rester.
Et on est d'accord. Mais si Marcourte est content des résultats sportifs et de la valeur des joueurs aujourd'hui, très bien. Moi, je dis que c'est insuffisant.
Mais tu es toujours sur le podium. C'est quoi? Non, mais tu es toujours sur le podium. Tu as un bilan.
Non, mais Pascal, arrête.
Tu as un bilan financier positif. Non, mais les gars, ne décollez pas. Et voilà, vous allez me le casser parce que ça t'arrange. Parce que ça ne va pas.
Mais déjà, ça ne m'arrange pas.
Allez, c'est le moment.
Ça ne m'arrange pas de le casser.
Mehdi, reste, Mehdi.
Mais non, il ne restera pas. Marcourte, il a dit que c'était fini.
Loïc, qui remporte ce procès? Jérôme ou la doublette All Metal Arquet? Vas-y, Loïc.
Pour moi, c'est la doublette All Metal Arquet qui remporte.
Bravo, ce procès. Okay. Voilà.
À la différence quand même que Mehdi n'est pas le seul responsable dans ce marasme et ce naufrage. Il a deux personnes, avec un au-dessus, un en dessous de lui, qui étaient largement plus coupables que lui, si on devait parler de culpabilité. Un entraîneur dont on n'a jamais compris ni la technique ni la tactique. Alors nous, les supporters, c'est pas grave, mais que les joueurs le comprennent pas, c'est beaucoup plus embêtant.
Ouais, mais qui c'est qui l'a mis à l'entraîneur?
Après les mouvements qu'il y a eu, ils arrivent, ils repartent, 6 mois, 1 an, 2 ans, ainsi de suite. Les mouvements étaient là avant Benatia et j'ai bien peur que ça perdure après lui. Maintenant, on aimerait un peu de congruence, c'est-à-dire avoir des projets sur 6 mois, 15 jours ou 1 an. Tu vois, il faudrait vraiment avoir un président et un organigramme clair, précis et concis, avec un directeur sportif, avec peut-être un mec à la cellule de recrutement. Moins de monde, mais simple et efficace. Moi, j'adore le détester, mais Jean-Michel Aulas, avant qu'il perde la boule, le pauvre, il était
un bon président. J'ai une invitation, tiens, pour...
Est-ce que tu me veux, président?
Il me demandait, j'étais juste bon à m'occuper du musée des Verts, je crois. J'ai cru comprendre qu'il avait du temps de libre, là.
Ah bah oui. Il n'est pas maire de Lyon.
Je suis à sa disposition.
Loïc, j'ai juste une question, contrairement. Et toi, tu vas être objectif.
De l'oseille, et lui est toujours là.
Mais attendez, écoutez,
Macourt a demandé, Loïc, il lui a demandé d'être président.
Loïc, quand tu es directeur sportif, ton rôle, avant de parler de responsabilité de Longoria ou de l'entraîneur, ton rôle, c'est de stabiliser le sportif. Donc, c'est le choix de l'entraîneur. Tu critiquais De Zerbi. C'est le choix de Benatia.
Oui, allez,
De Zerbi.
Oui.
On est d'accord.
Oui. Bah, ils se sont qualifiés une fois.
Avant que De Zerbi arrive, il avait pris Gasset en courte saison.
Oui.
C'était le choix.
Oui, parce qu'il fallait la finir la saison.
D'accord. Ok. Là, donc c'est un choix judicieux. Là, tu penses que tu penses qu'avec le départ de De Zerbi, tu prends Habib Bey, c'est la vision de Benatia ou c'est les autres? C'est bien ses choix en fait. Est-ce que ça, rien que sur ces trois choix-là,
Jérôme, on a gagné.
Non, mais d'accord. Mais vous avez gagné. Je sais même pas sur quoi vous avez gagné.
Pascal, réponds-moi oui ou non. Est-ce que tu fais acte de candidature pour la présidence de l'OM? Parce que t'arrêtes pas de le sous-entendre, Pascal. Est-ce que tu es candidat pour être président de l'Olympique de Marseille?
Oui, si Mehdi reste dans la présidence, je prends avec lui. Oui, sans problème.
Mais Mehdi, il s'en va.
On va en mettre
ça
des
a été annoncé.
Non, il s'en va pas. Mais qui s'en va?
Ça a été annoncé par Macourt.
Toi, président, tu convaincs Benatia de rester.
Les gars, attendez, les gars, ils sont tous partis avec de l'oseille. Mehdi Benatia, il est toujours là, il ne demande rien à personne.
Mais on est d'accord, mais là-dessus, mais Pascal, tu fais...
Sois d'accord à 200%, même si...
Allez, on y va.
Mais c'est pas une question d'être d'accord à 200%.
Voilà, mais il n'y a que lui qui peut tenir un club, les gars.
Mais il a dit lui-même qu'il voulait partir, et Macron l'a accepté. Et toi, tu nous dis non, il va rester.
Dans un instant, merci Loïc d'être venu rendre son verdict.
Je ne sais pas tout, moi je sais.
La soirée de l'angoisse pour les Italiens avec ce barrage final pour la Coupe du Monde 2026 en Bosnie. À tout de suite sur
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit la première heure avec le Allo Jérôme et on va aller direction l'Italie. Ça tremble sur Rome et sur toute l'Italie. Ce qui va se passer en Bosnie ce soir, Bosnie-Italie pour une qualif pour la Coupe du Monde aux États-Unis avec Benoît Boutron, avec Pascal Olmeta et avec Jean-Michel Larquet. Après 19h, on va parler du champion d'Europe.
on va parler de Lucas Chevalier.
Et de Lucas Chevalier.
Avec un avis tranché. Enfin, on l'attendait depuis 3 ans, de Pascal Olmeta.
Il est en colère, Pascal Olmeta. Est-ce que pour relancer sa carrière, Chevalier doit quitter le PSG cet été sur
Pascal Parisien, nous a dit qu'il s'entraîne. C'est déjà ça.
Allez, tout de suite, filons en Italie.
RMC, Rotten sans flamme.
Là, je me dis, c'est un rêve, c'est pas possible. Le but à la 92e minute face à la Macédoine, qui t'aime.
È finita, l'Italia perde 1-0 in casa contro la Macedonia del Nord, viene eliminata dal mondiale. Sembra una maledizione.
Allô Jérôme.
La peur sur toute l'Italie ce soir, finale des barrages Bosnie-Italie 20h45, des Italiens quadruples vainqueurs de la Coupe du Monde qui ont manqué les deux dernières éditions. Ils ont éliminé la semaine dernière l'Irlande du Nord pour s'offrir cette finale en Bosnie. Un vrai traquenard ce soir à Zenica, 8800 spectateurs, tout petit stade. Ça va être assez dingue pour les Italiens. Et nous on a envoyé Clément Brossard en direct de Milan. Salut Clément.
Ciao, buonasera a tutti.
Et voilà, ça y est, il a pris l'accent et tout. Il maîtrise parfaitement l'italien. Et comme ça, Clément, tu peux nous parler du niveau.
Qu'est-ce qu'il faut à Milan, le match, il est en Bosnie.
Et ben parce que comme ça, il va vivre la soirée avec les Italiens.
T'es trompé ou quoi?
On prend le pouls. Exactement. Prend le pouls, Jérôme.
Il n'y a pas de match retour.
Ah ouais, je pensais, tu vois, je vais tromper, il va falloir que je revienne demain. Non, mais il tremble.
Zéro de confiance des Italiens, là. On a vraiment très peur en Italie, ouais.
Exactement, mais il tremble sans vraiment le dire finalement. Je m'explique, je suis allé à la rencontre de pas mal d'Italiens là sur l'heure qui vient de passer notamment, et on est à 2h du match. Hein. Les rues, selon les habitués du coin, sont plus calmes que d'habitude. Et quand je tombe sur des suiveurs de foot, on me dit oui, on suivra la rencontre, mais non, on ne préfère pas en parler. Donc vous connaissez le côté superstition aussi des Italiens, on joue de ça, vraiment. Donc c'est aussi ça la tension finalement qui était décrite dans les colonnes des quotidiens italiens ce matin. Gian Piero, lui, était disponible pour RMC. Il a 76 ans, habitant milanais, et il va rester calmement ou pas d'ailleurs chez lui pour regarder le match ce soir.
Importante per l'Italia perché siamo fuori da questa competizione.
Le match de ce soir est important parce que nous sommes absents deux fois de suite de cette compétition. Nous sommes une grande nation, nous avons remporté des Coupes du Monde. C'est comme si l'Allemagne ou le Brésil étaient absents. C'est comme un traumatisme pour les Italiens. Ça fait trop longtemps. Nous ne pouvons pas être heureux.
Una squadretta che comincia a venire fuori buona, però ci vuole tempo.
Alors ce midi, j'ai également rencontré Filippo Galli, ex-adjoint de Carlo Ancelotti à Milan, presque 15 ans sous le maillot des Rossoneri, vainqueur de la Ligue des Champions notamment. Et lui, Filippo Galli, il est persuadé qu'il y aura du changement après ce barrage. Quel que soit le résultat, en tout cas, selon lui, il le faut.
Je ne veux même pas penser à une élimination. Il est clair qu'il faudra alors changer beaucoup de choses. J'espère que même si on se qualifie, parce que je pense qu'on se qualifiera, on pourra améliorer un peu tout le système du football italien, à commencer par les formations d'entraîneurs jusqu'aux principes qui sous-tendent notre conception du football.
Un vrai changement à venir, mais il faut jouer ce match, le gagner aussi, et l'Italie va vibrer. Ce soir, ça classe biberon aussi, cette jeunesse italienne. Vous savez, les moins de 15 ans qui n'ont jamais vu leur nation disputer un seul match de Coupe du Monde, c'est dingue. Et c'est le cas de Giulia qu'on a rencontré sur les abords de San Siro ce matin. Elle a 9 ans et elle joue chez les jeunes de l'Inter. Jeune footballeuse, Giulia. Elle regardera le match avec son papa, sa maman, la nonna aussi peut-être ce soir.
Je n'ai pas de souvenir de l'Italie en Coupe du Monde parce que je n'étais pas né. Je pense que l'Italie va se qualifier pour le mondial. Je suis un peu tendue, mais je suis à fond pour eux.
La pauvre.
Et Benoît, de l'âge de Giulia, c'est vrai que la pauvre, tu le dis, mais il y a beaucoup de jeunes Italiens qui se désintéressent du foot. Hein. C'est aussi une réalité en Italie, c'est ce qu'on m'a expliqué ici. Les licences, par exemple, dans les clubs sont en baisse totale. Il n'y a plus d'idoles pour faire rêver, et c'est ce que regrette notamment Gian Piero, qui lui est expérimenté.
Avant, il y avait des idoles comme Rivera, Mazzola, des joueurs emblématiques comme Totti. Maintenant, il n'y en a plus. Les idoles du moment sont des sportifs comme Yannick Sinner, qui est pour moi le meilleur joueur de tous les temps.
Et Fabio Capello le disait hier, notamment dans la presse italienne, si on veut que les Italiens se remettent à regarder le foot plus que le tennis, la F1 ou la moto ou l'Italie brille, eh bien, il faut absolument se qualifier. Et la Nazionale est consciente qu'elle ne joue pas ce soir un simple match de foot.
Et c'est ça. Merci beaucoup, Clément. Un magnifique reportage au cœur de Milan. On pense à Giulia, on pensera à elle ce soir pour la panique devant ce match. C'est vrai, là, Jean-Michel, Jérôme et Pascal, ça dépasse le cadre du foot parce qu'il y a une génération italienne qui se désintéresse comme ça de ce sport qui a été le sport roi pendant des années en Italie. Le match de ce soir, Jérôme, il est crucial aussi pour cette génération-là.
Oui, oui, bah pour le football italien, je crois que déjà deux Coupes du Monde passées à la trappe, la troisième certainement de trop, si c'est le cas encore ce soir. Donc la pression elle est énorme, mais ça joue forcément sur la ferveur. C'est l'Italie, c'est un pays de foot dans tous les cas, mais quand ton équipe nationale elle est pas dans les grandes compétitions ou que le problème c'est qu'ils ont gagné un Euro il y a pas si longtemps que ça,
2021,
il y a
5
ans. Ouais. Voilà, période Covid, ouais. Donc c'est passé comme une anomalie, si tu veux. Donc ils l'ont pas même pas pu le fêter à sa juste valeur, ce titre-là. Et je pense qu'ils se sont... la preuve, hein, c'est que les résultats derrière sont catastrophiques. Les générations, bah ils ont du mal à reproduire, avoir l'émergence de jeunes talentueux. Ouais. Non, mais c'est ça qui est plus problématique. Alors que c'est le football et le sport le plus populaire en Italie, que normalement il devrait être
Plus le cas, hein. C'est ça qui fait peur. C'est ce qu'il disait, c'est que là il y a le tennis qui vient, il y a la MotoGP,
la moto. Oui, non, mais c'est ça qui fait flipper par rapport à nous. Regarde, en France, on peut dire ce qu'on veut, mais on a un vivier, ça sort parce qu'on investit beaucoup. Je pense qu'ils ont un problème. C'est que quand tu te fais dépasser par certains sports, tu deviens plus la priorité financièrement, et que si tu mets plus d'argent pour développer un peu le football déjà en bas, écoute, c'est sûr que le problème, c'est que là, tu es obligé de ressortir du tiroir des mecs qui sont cramoisis. Tu vois, tu vas aller chercher des mecs, Verratti, t'imagines quand même.
Retegui,
pareil, qui est parti. Donc en fait, le problème, ils se sont rattrapés par rapport à Keane. T'as raison, Jean-Michel. Ce que je veux dire, t'imagines, l'attaque, c'est Retegui et Keane. Écoute, oui, c'est sûr que rien que ça, c'est compliqué.
Et
c'est pour ça que je te dis que ce soir, attention, ce soir, c'est...
C'est dur.
C'est pas gagné. Alors après, attention, en face, t'as quand même pas la meilleure.
Le problème, moi, ce qui me fait peur, c'est que je trouve qu'ils ont très mal préparé cette rencontre. Après, ils peuvent gagner, ils doivent gagner, ils vont gagner.
Pourquoi
j'en sais
tu
rien.
Dis ça?
Mais parce que déjà, quand tu te réjouis de la défaite du pays de Galles, ça veut dire que
tu as
peur.
T'as raison.
Ouais. Quand tu te réjouis de la défaite du pays de Galles, parce que tu as peur d'affronter le pays de Galles.
Gallois, ouais.
Sauf que le pays de Galles, il a été battu par la Bosnie.
Et oui, au tir au but.
Donc, si tu as peur du pays de Galles.
Ouais, mais ils sont pas sûrs.
Je sais bien qu'ils sont pas sûrs. Et puis là,
le message que tu envoies aux Bosniens, il est pas bon, quoi. C'est que tu leur dis, c'est bon.
Le terrain, si tu veux. Après, tu commences à chercher les excuses. Oui, parce que le terrain, il est indigne. Alors, j'imagine que c'est pas la pelouse du Parc des Princes. Ça, j'en suis à peu près sûr. 8800 spectateurs, c'est-à-dire que tu dois avoir deux malheureuses tribunes et puis derrière les buts, des arbres. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est un vrai piège.
C'est un vrai piège.
Et moi, je suis, quand je vois les performances des Italiens ces derniers temps, et puis tu ne peux pas t'empêcher de penser à ce qui s'est passé contre la Macédoine du Nord,
c'était à domicile, hein.
La Suède.
La Macédoine et la Suède. Ouais. Ouais, tu peux pas t'en empêcher. Il faut savoir quand même que le football en Italie, les Italiens, ils s'étaient approprié le football, parce que en Italie, tu parles pas de football comme nous on parle de football en France. Eux, ils parlent de calcio, hein.
Ah oui,
c'est le calcio. C'est-à-dire que les Anglais l'ont inventé, mais nous on en a fait notre domaine. Ah oui. Et aujourd'hui, ils sont à la rue complète, bon. les Italiens, et pas uniquement l'équipe A, parce que j'ai l'impression quand même que chez les jeunes, c'est aussi un peu le désert de...
Bon, après, pour...
Un grand merci à Clément Brossard en direct de Milan, qui nous fera vivre la soirée ce soir.
Magnifique reportage.
Merci également,
merci à Pascal.
Aux fans italiens qui nous laissent des messages, on pense à vous, parce qu'il y a beaucoup de panique. Non, c'est ce soir, 20h45, le match de l'Italie. T'inquiète pas, Pascal, tu restes avec nous, parce qu'on a besoin de toi, c'est ton coup de gueule dans un instant. Roten se chauffe. Est-ce que pour relancer sa carrière,
s'entraîner.
Lucas Chevalier doit quitter le PSG? Ouais. Allez, à tout de suite.
Allez, à Bastia.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.